Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal, présenté par Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité, une quarantaine de personnes mortes, plusieurs autres portées disparues et quelques rescapés. Bilan du naufrage d'une baleinière hier à Boyeka, localité située à 200 km en amont de la ville de Mbandaka. En réaction, l'association d'aide aux défavorisés attribue ce drame à la négligence et à la mauvaise gestion du secteur par les autorités de l'Équateur. Les stations-service font porte close dans la ville de Bukavu au sud Kivu. À la base, les pétroliers réclament du gouvernement central une nouvelle structure des prix. Le prix d'un litre d'essence va jusqu'à 8000 francs congolais chez les revendeurs, dit Kadhafi. Conséquence, le prix du transport a doublé. Notre invité, c'est le président provincial des négociants du Maniema, Hassani Katulanya, parle du fonctionnement et des acquis de cette corporation pour le développement de la province. Madame, messieurs, bonsoir. Encore un drame dans la province de l'Équateur. Une quarantaine de personnes mortes, plusieurs autres portées disparues et quelques rescapées. C'est le bilan du naufrage d'une baleinière hier à Boyeka, village situé à 200 km en amont de la ville de Mbandaka, dans le territoire de Bolomba. En Mbandaka, le récit de Paul-Richard Malengela.
Des sources concordantes affirment que le HB Tonton transportait des centaines de passagers pour la plupart des commerçants. Il revenait du marché de Ngondo sous la rivière Lulonga pour Mbandaka. Mais le dimanche, vers 1h du matin, au large du village Boyeka, l'embarcation en bois a chaviré sous l'effet de la surcharge, avec tous les passagers à bord et leurs biens. Nos sources dénoncent aussi la navigation nocturne, souvent à la base de nombreux accidents fluviaux. Le premier bilan fait état de plus de 40 corps repêchés, dont celui du propriétaire. On dénonce encore 267 rescapés, mais le nombre des disparus semble aussi élevé, a souligné l'ancien athée de Bolomba, Camille Kachafali. Ce lundi, le gouvernement provincial de l'Équateur compte dépêcher une équipe mixte en vue de s'enquérir de la situation sur place. Une situation humanitaire préoccupante pour les rescapés qui ont tout perdu et pour l'enterrement des victimes. Entre-temps, le député provincial élu de Bolomba, Peter Lopose, a recommandé au gouvernement central de doter l'Équateur, à l'instar des bus Transco, des petits bateaux pour sécuriser le voyage de population. En revanche, le député national Désiré Iwolo, en mission dans la ville pour le naufrage du 13 octobre dernier, a demandé au gouvernement congolais de traiter cette question de naufrage en toute urgence. Mbandaka, Paul Chamalengela, Radio Okapi.
En réaction, le chargé de planification de l'association d'aide aux populations défavorisées dénonce ce qu'il qualifie de négligence et de mauvaise gestion de ces secteurs par les autorités provinciales de l'Équateur. Itchekler Wamba affirme à Radio Kapi que la répétition des drames fait suite à la vétusté de bateaux qui naviguent sur le fleuve Congo et au manque de sérieux dans le suivi des décisions prises. Il est au micro de Vanessa Kongolo.
AAPDC dénonce la mauvaise gestion des autorités de la province de l'Équateur. Par rapport au naufrage qui s'est tenu en date du 13, une baleinière, surchargement de baleinière, il y a plus ou moins 100 et quelques de morts. Il y a eu aussi un naufrage avant-hier. Il y a au moins 40 morts précisément au village Longa vers Bolomba. C'est pour cela que nous dénonçons la malgestion. Nous disons aux autorités de Mbandaka de prendre les meilleures précautions pour les unités flottantes pour que notre population voyage dans de bonnes conditions. Il y a beaucoup de naufrages. Nous perdons beaucoup de nos compatriotes. Il y a des baleinières qui sont durées pendant 40 ans, mauvais état, une baleinière avec des bois, donc ça ne va pas. Qui transportent des gens avec les marchandises, il y a surchargement, en tout cas, ça ne va pas.
Économie à présent. À Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, toutes les stations-service sont fermées depuis le week-end dernier. Les pétroliers disent attendre du gouvernement central une nouvelle structure des prix dans la ville. Les prix d'un litre d'essence va jusqu'à 8000 francs congolais chez les revendeurs, dit Kadhafi. Conséquence, le prix du transport en commun a doublé. Des précisions avec le président du club des pétroliers du Sud Kivu, Chihubagala Chinja, s'est confié à Emmanuel Elmejo Kabedi.
Le carburant a monté mondialement. Avant, nous achetons un mètre cube à $730. Aujourd'hui, c'est les $1050 un mètre cube. Alors, les titres de prix qu'on nous avait donné il y a à peu près 8 mois, de nous dire qu'il faut vendre à 3450 les litres. Maintenant, lorsque nous vendons à ces prix, nous sommes maintenant incapables de renouveler les stocks. Nous travaillons en perte. Il y a deuxième perte aussi, taux de change. Le taux de change que l'État nous donne, 2400. Aujourd'hui, c'est 2600. Vous arrivez à la banque, vous avez vendu en francs congolais, vous voulez avoir les devises pour encore importer, on vous dit chez nous, c'est 2600. Nous travaillons encore à perte. Alors, nous avons écrit la lettre aux autorités compétentes, c'est-à-dire les ministères des Finances, et les ministères de l'eau carbide et les ministères de l'économie. C'est ceux qui élaborent les études de prix des carburants. Alors, jusqu'à ce jour, nous sommes tentés de travailler en perte. Par camion, nous perdons $2000. Au lieu de gagner, il a fallu quand même stopper des ventes pour voir si le gouvernement va quand même prendre les mesures qui sont nécessaires.
Dans l'actualité, il y a aussi ces affrontements signalés ce lundi sur les collines surplombant l'agglomération de Bambo dans la chefferie de Bouito, territoire de Rutshuru au Nord Kivu, au lendemain de la reprise de la cité de Kichanga hier dimanche par les rebelles du M23. La situation reste tendue dans la zone. Le bilan dressé par des sources locales fait état de 3 civils tués et de 5 autres grièvement blessés. Le point de la situation avec vous, Bernard Danyangi.
C'est depuis ce lundi dans la matinée que des tirs d'armes lourdes et légères sont entendus dans les collines de Kirumba et Kagando en groupement des Bambo. Selon plusieurs sources locales, ces affrontements opposeraient les rebelles du M23 qui avancent vers là aux combattants des groupes armés locaux. Selon ces sources, les éléments FARDC qui étaient dans la zone auraient déjà quitté les lieux depuis hier dimanche. Plusieurs habitants de la région sont en déplacement vers Kibirizi, Nyanzale et les autres sont en route vers Kanyabayonga au sud de Lubero. Après la prise par le M23 de la cité de Kichanga, hier dimanche, les combats se sont poursuivis toute la journée, entraînant la mort d'au moins 3 civils et 5 autres blessés. Presque tous les habitants de Kichanga ont fui, les uns autour de la base de la MONUSCO, les autres vers Mueso. Ces sources parlent de quelques cas d'incendie de maisons dans l'opération de ratissage des rebelles du M23 à Kichanga. La société civile de Masisi redoute, par ailleurs, les actes de représailles envers les civils accusés d'être collaborateurs des groupes armés locaux. Goma, Bernard Denyangi, Radio Okapi.
Et en Ituri, pendant ces temps, plus de 8000 déplacés de guerre sont rentrés dans leur village ces deux derniers mois dans le secteur de Walendu Tati, territoire de Djougou. Selon le chef de l'entité, ce retour fait suite à l'amélioration de la situation sécuritaire dans la région grâce aux opérations militaires entre les FRDC et les casques bleus de la MONUSCO. À Bounia, des précisions d'Isaac Remoyopé.
Le secteur de Walendu Tati avait accueilli plus de 8000 déplacés qui ont fui les exactions des groupes armés, notamment Masumbuko, chef-lieu de cette entité coutumière. Environ 6000 personnes ont déjà regagné leur village d'origine, Gobi, Cheibi, Laoudjo, Ladejo et d'autres localités dans les secteurs voisins de Walendu Piti, affirme le chef local. Ce retour de la population est également observé dans d'autres entités du territoire de Djougou, comme le secteur de Walendu Tati, sans déterminer le nombre. Ces autorités coutumières indiquent que les violences des groupes armés ont sensiblement diminué. La plupart des barrières érigées par ces milices sont démantelées, ce qui facilite la libre circulation des personnes et de leurs biens. C'est la suite aux accords de cessation des hostilités signés par leur leader en juin dernier à Arou. Cet accalmie est également les résultats des opérations militaires FARDC, forces de la MONUSCO et des sensibilisations des autochtones et des assaillants à déposer les armes et intégrer les processus de désarmement et démobilisation par les chefs coutumiers. Cependant, les menaces de ces milices persistent et certaines localités sont toujours sous leur contrôle. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis dans le Kwilu, le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise plaide pour l'installation urgente d'un tribunal de grande instance à Idiofa. Arsène Kassiama affirme que les habitants de ces territoires peinent actuellement à accéder à la justice. Conséquence, l'impunité et l'abandon de plusieurs dossiers en appel. À Bandunduville, la correspondance d'Irène Boma.
Selon le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise d'Idiofa, à cause de l'absence d'un tribunal de grande instance dans cette entité, les justiciables sont obligés de parcourir plus de 250 km d'Idiofa jusqu'au territoire de Boulungu pour se présenter devant les juges. Arsène Kassiama ajoute à cela la prise en charge du logement et du moyen de déplacement qui apparaît comme un coup de trop. Pour l'instant, plusieurs dossiers sont abandonnés en appel à Boulungu et aussi l'impunité règne à Idiofa à la suite de l'accès difficile domicile à la justice. Arsène Kassiama qui l'a dit, plaide pour l'installation d'un tribunal de grande instance à Idjofa Cité afin de pallier à cette situation.
La plupart des justiciables abandonnent depuis Aboulongo de suite au déplacement. Donc vous voyez, quitter ici jusqu'à Aboulongo, le séjour ceci, cela, c'est vraiment compliqué. Ils préfèrent que tout se passe au moins à Idjofa. Nous exhortons le Haut Conseil de la magistrature de pouvoir s'y penser. Que ce tribunal soit implanté à Idjofa, parce que nous avons des infrastructures adéquates qui peuvent abriter le tribunal de grande instance à notre niveau.
Nous n'avons pas encore eu la réaction des autorités attitrées sur ces plaidoyers de la nouvelle société civile du Idjofa. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis, sensibilisation à Mbujima et chef-lieu de la province du Kasaï oriental contre la campagne électorale précoce dans les églises du Christ au Congo. Le président provincial de l'ECC appelle les pasteurs à ne pas accorder d'espace aux candidats pendant les cultes. Monseigneur Sylvain Lugnagnacolé demande aux fidèles de cette confession religieuse à battre campagne plutôt dans les permanences de leur parti politique. On l'écoute.
En tant que la première sentinelle de l'église protestante au Kasaï oriental Sankourou et Lomami, je lance un appel à tous nos collègues pasteurs. De partout où ils nous suivent, qu'ils sachent que la chair, l'église du Seigneur, n'est pas un lieu propice pour la campagne électorale. Tous les membres de notre église sont autorisés à se faire membres de partis politiques et chaque parti politique a sa permanence. Vous avez des messages de nature à procéder à la campagne, avant la campagne, allez à votre permanence pour faire tout cela là-bas et non au sein de l'église. Gardons l'église du Seigneur propre. S'ensuivre. Et quand vous êtes à 3 à 4 dans une même église, appartenant à des partis politiques différents, je pense que ça risque de diviser les enfants de Dieu et nous n'admettrons jamais les campagnes contradictoires au sein des églises protestantes. Et même des églises des néo-protestants, je pourrais seulement leur demander d'adopter la même conduite pour la paix au sein de nos églises pendant cette période électorale.
Aujourd'hui, Radio Okapi entame une série de reportages sur la cohabitation entre le parc national de Virunga et les communautés riveraines. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, dans ses limites avec les territoires de Rutshuru, Lubero et Beni. Les riverains sont accusés de violer les limites de ce patrimoine mondial. C'est ce qui est à la base d'un conflit entre les riverains et l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN. Un reportage à Beni de Sadiki Aboubakar.
Créé en 1925, le parc national des Virunga s'étend sur 790 000 hectares entre la RDC et l'Ouganda. Du côté congolais, il est limité entre autres par les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Lubero et Beni. D'après la coopérative des pêcheurs des Virunga, Copévi, ces conflits de limites tirent son origine de la création du parc. Ces limites contenues dans le décret colonial de 1925 ont été étendues en 1935 sans tenir compte de la démographie croissante. Ainsi, du côté des Rutshuru, un conflit permanent des limites s'observe dans le groupement des Binza de la chefferie des Bwisha, où la population a même détruit récemment une bonne partie de la clôture électrique érigée par l'ICSN à la limite du parc. Le même conflit s'est fait remarquer dans le groupement des Mutanda de la chefferie des Bwito, où l'ICSN accuse les riverains d'envahir le parc dans la zone des Ruindi. Dans le territoire de Lubero, les habitants de plus de 5 villages ont été déguerpis par les éco-gardes, et dans le territoire de Beni, l'ICSN revendique toujours Mayangose comme étant sa partie intégrante. Cette zone agricole est aujourd'hui l'un des greniers de la ville de Beni. À la cité frontalière de Kassindi, l'ICSN revendique tout le quartier dénommé Kongoyasika comme étant dans le parc national de Virunga. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Niger, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation depuis le coup d'État du 26 juillet dernier revient aujourd'hui sur les relations qui existent entre les autorités qui ont pris le pouvoir à Niamey et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En marge du forum de paix et sécurité qui s'est tenu à Lomé au Togo, le général Mohamed Boubacar Toumba a affirmé qu'il est venu à ses assises dans la perspective d'entamer le dialogue. Et puis, plus de 19 19 000 personnes ont été déplacées au Liban après une intensification des affrontements entre l'armée israélienne et les Hezbollah libanais à la frontière entre les deux pays, selon les chiffres qui ont été publiés cet après-midi par une agence spécialisée des Nations Unies. Le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, indique que ce déplacement massif de la population fait suite notamment aux incidents transfrontaliers survenus dans le sud du pays.
L'invité.
Notre invité, c'est le président provincial des négociants du Maniema, Hassani Katoulanya, parle du fonctionnement de sa corporation. Il est interviewé à Kindu par Florence Kizalunga.
Monsieur Hassani Katoulanya, bonjour.
Bonjour madame.
Président provincial des négociants du Maniema, dites-nous brièvement comment les négociants travaillent dans cette province.
Merci madame. Nous, les négociants du Maniema, nous travaillons ensemble avec des entités de traitement ici chez nous. Il y a presque 7 à 8 entités de traitement. Même aujourd'hui, on nous amène notre entité de traitement, notre partenaire de Sakima, il nous amène une autre entité, on s'appelle PEDEM, représentée par M. Mazanga. En tout cas, nous félicitons ça.
Est-ce que vous avez un peu de production comme vous êtes en train de travailler avec les autres?
Nous avons beaucoup de production ici chez nous au Maniema. Au Maniema, nous produisons par mois pas moins de 600 à 500 tonnes. Même à Kalima, présumé à Kalima où je travaille, par mois, nous produisons pas moins de 180 tonnes à 150 tonnes.
Et comment est-ce que vous faites pour évacuer tous ces minerais?
Là-bas, nous avons des entités de traitement qui sont là. Il y a d'autres entités de traitement qui sont ici à Kindu et d'autres à Goma. Et nous travaillons ici, il y a des transferts et l'évacuation. Nous vendons à Kindu et ce qui veut transférer, transfère à Goma ou bien à Bukavu.
Et cela n'a pas de problème, ça ne cause pas de problème, ça se passe très bien?
Oui, oui, ça se passe très très bien puisque nous sommes soutenus avec des autorités. Mais nous sommes aussi en règle avec l'État. Nous respectons aussi les codes miniers et aussi le manuel de la traçabilité.
Avec les entités de traitement, il y a une franche collaboration entre vous?
Il y a quelques entités que nous avons des collaborations, une bonne collaboration. Il y a une autre entité qui veut nous manipuler seulement, écraser les négociants, puisqu'ils ne respectent pas le manuel de la traçabilité. La traçabilité nous dit que les entités de traitement doivent s'installer au chef-lieu de province. Mais nous, ici au Maniema, une chose grave, les entités de traitement, au lieu de se planter ici au chef-lieu, ils veulent se planter au site minier. Par exemple, à Kalima, nous avons presque 3-4 entités qui se plantent là-bas. Ils disent qu'ils ont des contrats d'amodiation et d'exploitation industrielle, mais ils laissent ça qui sont là, en train seulement de tracasser les négociants jusqu'au niveau des sites, même au niveau du puits, pour manipuler les négociants. Et pourtant, les négociants, ce sont des classes moyennes. C'est comme ça que nous sommes mal manipulés avec des entités qui se trouvent au niveau des sites.
Ça, c'est parmi les difficultés que vous, les négociants, vous êtes en train de rencontrer. À part ce que vous venez de dire là, il y a d'autres difficultés?
Ouais, ouais, beaucoup de difficultés que nous avons là-bas, beaucoup, beaucoup. Un, le code minier nous dit qu'il faut respecter les prix. Les problèmes de prix, c'est mondial, mais les entités ne respectent pas ça. Les problèmes aussi d'analyse, pour analyser le minerai au spectro, beaucoup de magouilles. Il y a des agents de CC qui ne contrôlent pas, n'entrent pas. Le même qui achète le minerai, c'est lui-même qui vous donne le pourcentage et le prix. Ça, même assisté par un agent de l'État. Ça, ce n'est pas bien en tout cas. D'autres problèmes nous avons. Nous produisons des minéraux là chez nous. Par exemple, Kalima. Nous produisons 180 tonnes, 150 tonnes par mois, mais nous n'avons rien. Nous sommes quand même dans le Bicoc. Pas de route. Ils ne respectent pas même des cahiers de charges. Ils exportent seulement des minéraux, 150 tonnes par mois. Mais nous, les populations, nous ne sommes pas bénéficiaires de notre production. Nous n'avons pas de route, de maisons. Nous dormons dans les bicoques, pas des écoles.
Mais à qui la faute?
La faute qui est là, nous sommes délaissés, nous sommes abandonnés par notre gouvernement. Et pourtant, le président de la République nous a dit que le peuple d'abord, nous chantons partout que c'est le peuple d'abord. Mais la classe moyenne est délaissée, ici chez nous au Maniema. Il y a seulement des entités qui nous utilisent comme des esclaves. Ce sont des entités qui s'enrichissent.
Mais pour qu'il y ait de l'ordre, selon vous, qu'est-ce qu'il faudra faire?
Moi, comme le représentant des négociants du Maniema, je suis en train de solliciter le gouvernement et aussi notre partenaire Haïti pour le respect manuel de la transhabilité et l'application du code minier. C'est ce que nous voulons. Si on respecte le code minier manuel de la transhabilité, nous pensons que les choses iront bien.
Monsieur Hassan Katoulanya, merci.
Merci Madame Florence.
C'était l'invité de Radio Kapi, le président provincial des négociants du Maniema, Hassani Katoulanya, interrogé à Kindu par Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Kapi. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20.